Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Turquie. La Turquie où une refonte de la vie politique paraît en marche à la lecture des résultats des élections du 7 juin dernier. Élection qui a marqué la perte de la majorité absolue au Parlement de l'AKP, le parti de justice et développement au pouvoir à Ankara depuis 13 ans, et le notable renforcement du parti démocratique des peuples, le HDP de Selahattin Demirtas. Nul doute que la politique étrangère de Erdogan a pesé dans ce scrutin. En même temps, bien sûr, que les questions domestiques, et en l'occurrence, elles sont liées autour de la question kurde. Cette défaite personnelle pour le président turc va-t-elle avoir une influence sur la politique étrangère de la Turquie? Quel scénario possible attendent le pays? C'est ce que nous allons voir avec nos invités par téléphone. Jean Marcoux, spécialiste de la Turquie, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble et auteur du blog ovipot.hypothèse.org. Bonjour Jean Marcoux.
Bonjour.
Et en studio, Ahmet İnsel, politologue et enseignant d'économie à l'université Galatasaray, auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan, paru aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, a donc perdu sa majorité absolue au Parlement, ce qui constitue une défaite pour le président Erdogan. L'autre nouveauté concerne la poussée du Parti démocratique des peuples, le HDP. C'est une formation d'origine kurde rattachée au mouvement des sociodémocrates sur le plan européen. Où en est la Turquie aujourd'hui quant aux tractations pour constituer une majorité? Quelles sont les alliances possibles, Jean Marcoux?
Eh bien, la situation depuis les élections du 7 juin est une situation un petit peu confuse, puisque pour l'instant, aucun véritable gouvernement de coalition n'est sur les rails. En effet, les trois partis d'opposition qui ont donc réalisé des résultats le 7 juin empêchant l'AKP d'avoir sa majorité ont tous, pendant la campagne, à plusieurs reprises, déclaré qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement de coalition avec l'AKP. Alors bien sûr, la situation est désormais nouvelle, puisque finalement, les options qui se présentent, c'est soit la capacité à constituer une coalition, soit l'incapacité à constituer une coalition, et dans ce cas, la Turquie n'aurait d'autre solution que de retourner devant les urnes, d'organiser des élections anticipées. Alors c'est vrai que la situation depuis le 7 juin a quand même un peu évolué, même s'il n'y a pas pour l'instant véritablement de perspective claire, puisque tous les partis ont pris position. Les nationalistes du MHP, du Parti pour le Mouvement Nationaliste, ont fait savoir qu'ils étaient ouverts à une coalition, mais ils ont posé des conditions à l'AKP, en particulier l'abandon du processus de paix avec les Kurdes, l'ouverture des dossiers sur les scandales de corruption et un certain nombre d'impératifs de politique intérieure qu'ils veulent voir accomplis. Donc les perspectives sont déjà assez hautes. Selahattin Demirtas a dit qu'il était ouvert à une grande coalition qui rassemblerait l'AKP, le CHP, c'est-à-dire le Parti kémaliste, et son propre parti, le Parti démocratique des peuples. Donc, on a également évoqué un gouvernement CHP, gouvernement kémaliste, AKP, un CHP-AKP. Et d'ailleurs, à peine un jour après l'élection, Recep Tayyip Erdogan a rencontré l'ancien dirigeant du CHP et un certain nombre de paroles ont été prononcées, mais effectivement, pour l'instant, on reste dans une situation qui n'est pas encore clarifiée du point de vue du gouvernement de coalition.
Alors, Ahmet İnsel, je me tourne vers vous. Finalement, que reflète cette difficulté à mettre sur pied une coalition du panorama politique aujourd'hui en Turquie?
Comme Jean Marcoux a précisé, normalement, on devrait avoir une coalition sans trop de difficultés en Turquie. Le parti qui est au pouvoir depuis 13 ans, le parti Justice et Développement, dirigé par une main de fer par Tayyip Erdogan pendant longtemps, et encore jusqu'aux élections indirectement, dispose quand même, avec 41% des voix à peu près, il lui manque 20 sièges pour la majorité parlementaire. Donc du coup, il dispose d'un grand bloc de groupes parlementaires.
Il a la majorité, mais pas la majorité absolue.
Il n'a pas la majorité absolue. Il est le plus grand groupe parlementaire du futur assemblée. Donc normalement, on devrait pouvoir composer soit ce qu'on appelle à la manière allemande la grande coalition entre le parti, ce parti et le parti kémaliste social-démocrate CHP, ou d'autres. Mais le problème aujourd'hui, ce qui se révèle dans ces élections, c'est qu'il y a eu en fait un vote non pas pour ou contre ces partis, mais d'abord pour ou contre le projet de Tayyip Erdogan. Le projet présidentiel de Tayyip Erdogan et cette mainmise de Tayyip Erdogan sur la vie politique, sur l'État et je dirais même sur l'espace médiatique, juridique, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur AKP pèse l'hypothèque du président de la République et les trois autres partis politiques ne veulent pas faire de coalition avec AKP, non pas c'est parce que c'est AKP, mais parce que l'ombre de Erdogan pèse trop sur AKP.
Donc le problème c'est Erdogan, c'est ce que j'entends.
C'est beaucoup plus un problème Erdogan que nous avons, et d'ailleurs c'est une sorte de ruse de l'histoire. Tayyip Erdogan qui apparaissait jusqu'aux élections, celui qui assure en Turquie la stabilité, la sécurité, etc., etc., est devenu maintenant, je dis pas l'unique, mais le principal, la principale source d'instabilité ou d'indétermination politique.
Jean-Marc Roux, je reviens vers vous. Le délai constitutionnel le donne 45 jours. Donc, je le rappelle, les élections ont eu lieu le 7 juin, il y a quelques jours.
Non, ce délai commence après le vote de confiance. S'il n'y a pas de vote de confiance pour le Parlement. Pour le moment, le délai de 45 jours n'a pas encore commencé.
Non.
D'accord. On a encore beaucoup de temps. Même s'il y a des élections anticipées, ça ne peut se faire que dans les 6 mois à venir et non pas dans tout de suite.
On a parlé du mois de novembre.
Novembre, juste pour nos éditeurs, se situe après ce congrès attendu de l'AKP.
En septembre.
Après l'été. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce congrès et en quoi il peut marquer quelque chose d'important dans ce processus de constitution d'une majorité, Jean-Marc Roux ?
Ce congrès est très important parce que, justement, comme le disait Ahmet İnsel, un des problèmes est de surmonter le problème de la présidentialisation du régime. En effet, depuis son élection, Recep Tayyip Erdogan, depuis son élection à la présidence de la République au suffrage universel, qui était la première en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a impulsé, en fait, une lecture de la Constitution qui est une lecture semi-présidentialiste où le président de la République domine l'exécutif alors qu'il devrait être en retrait. Et donc c'est cette lecture, si un gouvernement de coalition est mis en place, cette lecture qui est en cause. Or, Recep Tayyip Erdogan est intervenu dans la campagne alors qu'il n'avait pas véritablement à le faire, et donc ce résultat est un peu une défaite véritablement personnelle de Recep Tayyip Erdogan. Mais on avait bien vu que pendant cette campagne, et même d'ailleurs depuis son élection, face à cette présidentialisation, il y avait des désaccords au sein même du parti. Et donc ces désaccords ont été surmontés après l'élection au suffrage universel, parce que finalement Recep Tayyip Erdogan venait de gagner, donc il était dans une sorte d'état de grâce et il en a profité ensuite pour lancer cette campagne législative et pour y tenir le premier rôle. Or désormais, la question qui se pose est celle véritablement du leadership du parti, parce que effectivement, formellement, le leadership appartient à Ahmet Davutoğlu, qui a été Premier ministre, mais ce leadership, finalement concret, est en réalité exercé par Recep Tayyip Erdogan lui-même. Et on a bien vu également qu'à l'issue de l'élection présidentielle et dans la préparation des législatives, l'AKP a appliqué cette règle des 3 mandats, pas plus de 3 mandats, Et donc, tout un lot de parlementaires qui avaient été élus en 2002 après la première victoire de la KP et qui avaient été en quelque sorte les compagnons de route pendant plus d'une dizaine d'années de la KP, ceux qui avaient été, je dirais, derrière Tayyip Erdogan pendant cette décennie, eh bien, ont été poussés dehors du parti. Et puis il y a un certain nombre, finalement, de leaders, comme Abdullah Gül également, qui, après l'élection de Erdogan, dont on avait parlé, on avait évoqué son retour, hein, qui devait rejouer un rôle et qui a été finalement poussé dehors du parti. Il y a également des cadres qui, du fait de cette règle des trois mandats, se retrouvent un peu hors jeu, comme le vice-premier ministre Babacan, qui est un petit peu monsieur économie du gouvernement. Et donc, il est sûr que dans une situation où Tayyip Erdogan dominait, venant d'être élu, les problèmes internes ont été en quelque sorte étouffés, mais que ces problèmes internes, on les a malgré tout vus affleurer pendant la campagne électorale, et que désormais, dans une situation où finalement Recep Tayyip Erdogan, du fait de son engagement dans la campagne, a subi un camouflet, ben, ces problèmes internes, ces dissensions internes devraient reparaître à l'occasion d'un congrès. En tout cas, c'est un enjeu très fort.
Un congrès de la KP donc en septembre prochain, dont on dit, je ne sais pas si vous partagez à Ahmet İnsel, qu'il sera une sorte de second tour des élections du 7 juin.
Tout à fait. Je pense que ça pourrait être une second tour des élections, mais pour la KP cette fois-ci. Évidemment, si on rentre dans le Congrès dans une perspective où AKP n'est pas au pouvoir, s'il y a une coalition des trois partis, ce qui est difficilement probable pour le moment, mais c'est faiblement probable, ou bien un gouvernement minoritaire CHP, par exemple, soutenu par les deux autres partis, si AKP entre au Congrès en n'étant pas au pouvoir, ne partageant pas le pouvoir, ce sera différent s'il était au pouvoir. Donc je pense que là aussi, le Congrès va être déterminer le résultat du Congrès selon la configuration politique d'ici septembre prochain.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, je l'ai dit en introduction, donc le tournant de ces élections, en fait, il y en avait deux tournants. C'est d'abord la perte donc de la majorité absolue au Parlement pour l'AKP. On en a parlé suffisamment et on y reviendra sans doute en septembre prochain. Le deuxième tournant, c'est l'émergence ou la poussée du Parti démocratique des peuples, le HDP, la formation de Selahattin Demirtaş. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce parti aujourd'hui, comment expliquer finalement qu'il est le vent en poupe en Turquie? Il a, d'après ce que j'ai compris, pas mal rassemblé une multitude de contestations et il n'a pas seulement finalement engrangé les votes des Kurdes de Turquie. Ahmet İnsel.
Alors, Selahattin Demirtaş est devenu une figure importante avant cette élection. Je pense que l'élection présidentielle pour la première fois au suffrage universel en août dernier, en août 2014, a été l'occasion aussi de l'émergence d'une nouvelle figure, puisque contre toute attente, il avait quasiment atteint les 10% et avait créé autour de lui une dynamique. Et c'est grâce à cette dynamique que le parti HDP a eu le courage d'affronter la barre de 10% et de ne pas présenter des candidats indépendants pour contourner cette limite. Et effectivement, le parti a bénéficié de trois choses. D'abord, Tayyip Erdogan a pris directement, a visé directement ce parti parce que il avait bien compris que s'il dépassait les 10%, il perdait à peu près 50 députés, qu'il mettait la main sur 50 députés qui appartenant à ce parti en cas d'échec de 10%. Deuxièmement, Tayyip Erdogan a voulu limiter la saignée de son parti vers la droite nationaliste à cause du problème kurde. Et donc, du coup, 4-5 mois avant les élections, il a commencé à dire « il n'y a pas de problème kurde » et il a suspendu les processus de négociation, ce qui a irrité la base électorale kurde d'AKP, les Kurdes conservateurs. Et là, on voit la carte électorale aujourd'hui en Turquie, le pays kurde, les départements en majorité kurde de la Turquie sont... dans certains départements, HDP a plus de 80% des voix, 80-85% des voix. AKP est devenu très minoritaire, alors que jusque-là, AKP se prévalait d'être à peu près à égalité, partagé à égalité les voix kurdes avec HDP. Troisième facteur, c'est Demirtas lui-même, qui incarne d'abord figure jeune. Les trois autres leaders ont plus de 60 ans, alors que lui, il a un peu plus de 40 ans. Il a pu canaliser l'esprit de protestation Gezi, la nouvelle discours démocratique un peu plus cool, plus humoristique, etc. Et en même temps, il représente évidemment le problème kurde, puisqu'il vient d'une base militante. Il a été pendant longtemps avocat et dirigeant de l'Association des droits de l'homme à Diyarbakır dans des moments très difficiles des années 90. Et donc, il permet d'incarner une Turquie de gauche, démocrate, pluriel et surtout reconnaissant l'égalité de toutes les conditions et de droits de toutes les minorités culturelles, sexuelles ou identitaires de type religieuse ou ethnique.
En tout cas, ce que j'entends de ce que vous venez de dire, Ahmet İnsel, et juste pour éclairer nos auditeurs, Erdogan a dérapé avec l'absence de soutien aux Kurdes de Kobané, donc en Syrie. Jean-Marc Roux, je pense que vous partagez, et il paye là, finalement, cette absence de soutien, en perdant sa majorité absolue et en permettant... Enfin, en tout cas, c'est un des éléments de l'analyse qu'on peut faire, sans doute, Jean-Marc Roux.
Oui, tout à fait. Je crois que le succès du HDP est à la fois un succès stratégique et un succès tactique. C'est un succès stratégique parce que le HDP a su profiter, en profitant des erreurs des prises de position de l'AKP, il a su à la fois être plus qu'avant, d'une certaine manière, un parti kurde, parce que il a réduit finalement l'AKP dans les zones kurdes, l'AKP qui était véritablement le deuxième parti presque à égalité avec le HDP dans les zones kurdes, il l'a réduit à la portion congrue, à la fois en profitant, je dirais, de l'échec, il faut bien le dire, des processus de paix qui ont été engagés pendant les deux dernières législatures et en profitant aussi des positions extrêmement équivoques que le gouvernement de l'AKP a pris au moment des événements de Kobané. Mais stratégiquement, il a réussi à augmenter sa base politique. Effectivement, Selah Attin Demirtas a très bien géré l'élection présidentielle en étant un vrai candidat rassembleur lors d'une présidentielle. Et de fait, il a élargi sa base politique un petit peu à tous les oubliés de la République, non seulement les peuples autres, on pense effectivement aux peuples minoritaires, aux chrétiens, aux arméniens, aux alévis, mais on pense également à des catégories qui ont été oubliées justement ces dernières années ou qui n'ont pas été traitées comme elles devaient l'être, en particulier les femmes, les homosexuels, les défenseurs de l'environnement. Il a élargi sa base politique, donc tout en étant plus qu'avant encore, finalement, rassemblant plus qu'avant encore les Kurdes eux-mêmes. Et puis il y a une victoire tactique sur ce seuil des 10%, parce que, effectivement, lorsque le HDP a décidé de présenter des listes et non pas des candidats indépendants, puisque je rappelle qu'il était, par le biais des candidatures indépendantes, au Parlement depuis 2007, quand il a décidé de présenter ces listes, beaucoup ont dit l'AKP joue aux apprentis sorciers parce qu'il n'est pas sûr de franchir la barre des 10%. Mais justement, la barre des 10%, c'était un enjeu central dans l'élection.
Oui, évidemment, Ahmet İnsel, je ne voulais pas réduire le succès du parti HDP de Selah Attin Demirtas à un simple échec de la politique d'Erdogan à l'égard ou à l'encontre des Kurdes en Syrie.
Tout à fait. Je pense qu'il y a un processus qui est en cours en Turquie, un processus de changement social. AKP a introduit une dynamique à partir des années 2000 et cette dynamique dépasse désormais AKP, la dynamique de démocratisation. AKP est devenu, dans la deuxième partie de son gouvernement vers la fin des années 2000, un parti qui freine le changement social, mais le changement social a été déclenché. Et de ce point de vue-là, HDP n'est pas simplement un parti kurde, puisque il est aussi présent à l'ouest de la Turquie, et c'est très significatif, par exemple, qu'à Istanbul, HDP l'UDP est devenu le troisième parti politique devant la droite nationaliste. C'est très significatif parce que Istanbul, c'est quand même 15 millions d'habitants, le cœur dynamique de la Turquie, et obtenir 12 ou 13% à Istanbul, ça montre bien que, en même temps, HDP porte aussi un certain avenir de recomposition de la gauche plurielle en Turquie.
Voilà, alors on analysera tout cela dans la deuxième partie de l'émission pour parler également des géopolitiques. En tout cas, la question que je vous poserai pour démarrer cette deuxième partie, c'est finalement, on a le sentiment d'une société turque très polarisée aujourd'hui, et ce sera intéressant de connaître les contours de
plus
cette...
Plus de deux pôles d'ailleurs.
Plus de deux pôles. Vous nous direz tout cela, Ahmet İnsel. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean Marcou et Ahmet İnsel dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Turquie après les élections du 7 juin dernier. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Jean Marcou, spécialiste de la Turquie, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble et auteur du blog ovipote.hypothèseaupluriel.org. Et en studio avec moi, Ahmet İnsel, politologue et enseignant d'économie à l'université Galatasaray, auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan, paru aux éditions La Découverte. Ahmet İnsel, je pense sous votre contrôle, mais on a senti un certain soulagement dans les milieux laïcs et intellectuels, plutôt satisfaits de voir s'éloigner la perspective d'une totale emprise d'Erdogan sur le pays. On a l'impression d'une société turque aujourd'hui très polarisée. Quels sont les contours de cette polarisation ?
Alors, cette polarisation est multiple. Ça se superpose d'une certaine manière. D'abord, il y a une polarisation droite-gauche. La Turquie est à dominante une société votant à droite, contrairement à la Grèce. Nous sommes vraiment symétriques opposés de la Grèce. En Turquie, grosso modo, 60-65% de la population se dit de droite, grosso modo. Deuxièmement, il y a une polarisation ethnique, turc-kurde. Il y a une polarisation religieuse, sunnite, alévite. Les sunnites sont très largement majoritaires, les turcs aussi. Et puis, il y a une polarisation conservateur et moderniste. Les conservateurs veulent réinstituer, une partie des conservateurs en tout cas, veulent réinstituer la civilisation perdue islamo-turque, d'une certaine manière. Et puis, les modernistes, ils veulent continuer le travail de Mustafa Kemal, c'est-à-dire essentiellement une modernisation à l'occidental. Les deux partis sont aussi autoritaires d'une certaine manière. Et puis, il y a bien entendu un grand changement social. Le pays devient de plus en plus urbain. Du coup, les problèmes de la ruralité sont transportés dans le milieu urbain et ça explose en même temps, notamment sur le problème des femmes. Les femmes se libèrent de plus en plus et une partie des hommes réagit de plus en plus violemment par rapport à cette libération des femmes. Il y a des meurtres, etc. Donc tout ceci font qu'il y a une couche épaisse successive de polarisation et Tayyip Erdogan jusque-là, sur ces polarisations, a pu surfer d'une manière très habile puisqu'il était toujours du côté de la majorité sociologique du pays. Il était du côté des Turcs face aux Kurdes, il était du côté des Sunnites face aux Alévites, il était de côté des conservateurs face aux modernisateurs et les Turcs sunnites conservateurs, ça constitue la majorité sociologique du pays.
Alors pour poursuivre avec les femmes, et je me tourne vers vous, Jean Marcou, d'abord il faut noter que les femmes entrent en force au Parlement, issues donc des élections du 7 juin dernier, vous partagez Ahmet İnsel.
Tout à fait, grâce au HDP particulièrement.
Et cela va d'une certaine manière aussi faire taire ceux qui en Turquie déclarent que l'égalité homme-femme est contraire à la nature humaine et Erdogan lui-même est plutôt allé dans ce sens-là, Jean Marcou.
Oui, il y a eu au cours des dernières années toute une dérive, je dirais, de l'AKP avec des positions extrêmement machistes sur l'égalité homme-femme qui avait culminé il y a quelques années avec les tentatives de remise en cause de la législation autorisant l'avortement, qui a d'ailleurs été à l'époque combattue au point que les mouvements de femmes ont réussi à la faire annuler. Il y a eu plusieurs affaires, hein, en particulier ce meurtre assez odieux d'Özgecan Aslan il y a quelques mois, qui avait provoqué justement des mouvements très importants. Donc je dirais que effectivement cette poussée du HDP et la nouvelle configuration de la représentation nationale au sein du Parlement turc représente un petit peu tous ces mouvements sociaux, également le mouvement Gezi qui s'était exprimé dans la société turque. Et l'année dernière, on avait été un peu déçus par les résultats électoraux parce que l'AKP avait confirmé sa domination du système. On a l'impression que tous ces mouvements, à commencer par Sudiezi, ne parvenaient pas à s'exprimer sur le plan électoral. Eh bien, ces mouvements atypiques, je dirais, ont gagné hein, lors de ces élections du 7 juin. De ce point de vue-là, le résultat du HDP se rapproche quand même, d'une certaine manière, d'autres mouvements auxquels on assiste sur le plan politique dans les pays du sud de l'Europe. Je veux penser à ce qui s'est passé en Grèce avec Syriza, je veux penser à ce qui est en train de se passer en Espagne avec Podemos.
Avec donc l'émergence des partis de gauche. Ahmet Insel, vous êtes enseignant d'économie. Ces incertitudes politiques post-électorales du 7 juin, elles ne sont pas bonnes pour le climat économique du pays ?
Déjà, il y a un déclin de la croissance en Turquie depuis quelques années, ce qui explique aussi en partie, très très marginalement, le déclin électoral de AKP. La classe moyenne sur laquelle s'appuie AKP est très sensible à ces résultats, et le fait d'avoir cette explosion de croissance un peu surfait. Mais l'illusion d'explosion de croissance s'est arrêtée et la classe moyenne a l'impression de piétiner un peu sur place depuis quelques années. Par exemple, le PIB par tête d'habitant en dollars n'a pas augmenté depuis 4-5 ans à cause de la revalorisation du dollar aussi. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que l'économie turque, par rapport aux années 90, où il y avait des crises successives et qui se suivaient, crise politique, crise économique, etc., l'économie turque est beaucoup plus solide aussi par rapport aux années 90. Ce qui fait que une situation similaire dans les années 90, aujourd'hui, nous avions la bourse qui avait implosé, la livre turque dévissée, etc. Il y a quand même une sorte de retenue dans la réaction économique. Les milieux d'affaires poussent à ce qu'il y ait une coalition rapidement. Je pense que la résilience de l'économie turque a beaucoup augmenté grâce à ces 15 dernières années, mais ça ne peut pas durer très longtemps, évidemment, puisque si on rentre dans une zone d'incertitude, il peut y avoir une diminution des investissements, une diminution de la consommation, ce qui peut accélérer la chute de la croissance du PIB.
Et alors justement, vous parlez dans votre ouvrage Ahmet Insel, des difficultés d'un pays, parlons de la Turquie, qui a atteint un seuil de développement intermédiaire, à aller au-delà et entrer dans le groupe des pays à revenus élevés. Et vous soulignez la faiblesse des avancées technologiques, stagnation de la production du travail et faible efficacité organisationnelle. On ne va pas approfondir dessus trop longtemps.
Mais enfin, faible épargne intérieure, ce qui fait que le pays est très dépendant d'apports de capitaux étrangers, ce qui est vraiment le ventre mou du système. Moins on a de stabilité, moins de capitaux étrangers peuvent venir. Donc du coup, il y a un phénomène de fait de boule de neige, si vous voulez, qui peut entraîner la Turquie à piétiner pendant encore très longtemps dans le seuil de revenus intermédiaires.
Donc il y a une certaine urgence, d'une certaine manière, à stabiliser le pays.
Et la KEPA est un peu épuisée ses capacités de modification de ce point de vue-là.
On peut imaginer justement une période particulièrement agitée pour la Turquie dans les mois, années à venir.
Oui, il peut y avoir des agitations. Il y a eu déjà, juste avant les élections, pour la première fois depuis longtemps, une augmentation des revendications salariales des mouvements ouvriers, notamment dans le secteur automobile, qui est aussi un cœur stratégique du point de vue des exportations turques. Et il commence à y avoir de plus en plus de revendications syndicales. Les syndicats contrôlés par AKP commencent à être dépassés, d'une part. Et d'autre part, il y a des risques d'agitation politique ou d'affrontement politique. À Diyarbakır, la situation est très tendue. Juste avant les élections, il y a eu un attentat. HDP, les dirigeants d'HDP, avec un énorme sang-froid, ont pu calmer le jeu pour que les gens ne descendent pas dans la rue. Mais de plus en plus, on a la crainte d'une reprise d'affrontements entre les cellules dormantes de Daesh en Turquie, etc. Nous sommes dans une zone de turbulence. Cette turbulence peut être une turbulence constructive, parce que après 13 années de pouvoir d'un parti hégémonique, la sortie d'hégémonie de ce parti est forcément une zone de turbulence, mais nous ne savons pas si ça va être une turbulence constructive ou une turbulence plus destructive.
La région est pleine de turbulences. Vous faites ma transition à Ahmet Insel et je me tourne vers vous, Jean-Marc Roux. Quelles conséquences peut-on attendre finalement de ce remodelage politique en Turquie sur la politique étrangère d'Ankara, Jean-Marc Roux?
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une défaite de la présidence de la République et de la présidentialisation. Or, Tayyip Erdogan avait dominé la politique étrangère de la Turquie, notamment depuis son élection. Donc, on peut supposer qu'il va y avoir effectivement un certain nombre d'effets. Simplement, dès les premières semaines, on a vu que le gouvernement turc était désormais beaucoup plus prudent dans la gestion de la frontière et dans l'accueil des réfugiés, alors même que pendant longtemps, il a traité justement cette gestion de la frontière avec une grande désinvolture. Mais je crois que l'un des problèmes qui est posé à la Turquie est actuellement son extrême isolement au Proche-Orient, puisque la politique du zéro problème avec nos voisins d'Ahmet Davutoğlu est désormais terminée, que la Turquie justement a des relations difficiles avec ses voisins, et en particulier avec les pays du monde arabe, à commencer notamment par l'Égypte, qu'elle a perdu mais qu'elle n'a pas regagné le soutien d'Israël, ou en tout cas les bonnes relations qu'elle avait avec Israël, et qu'elle a des relations également difficiles avec ses voisins grecs, iraniens, etc. En outre, le problème est qu'elle a certes des relations avec les puissances régionales, je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie, mais ce ne sont pas véritablement des relations de confiance. Et ces pays ont souvent des désaccords sur les grands équilibres à l'heure actuelle du Moyen-Orient et dans les grands conflits, je pense en particulier au conflit syrien. Donc il y a vraiment une diplomatie turque à redessiner au Moyen-Orient au regard des crises qui ont succédé au printemps arabe et des grands conflits qui se profilent à l'heure actuelle.
Alors Ahmet İnsel, je me tourne vers vous. Vous partagez ce que vient de dire Jean-Marc Roux sur l'approche stratégique de la Turquie au Moyen-Orient.
Je pense que la Turquie va être obligée, si cette composition parlementaire ne change pas par une future élection anticipée, la Turquie va être obligée de changer sensiblement sa stratégie, parce que d'un régime de parti dominante et avec une volonté de régime présidentiel, nous sommes revenus à une, par la ruse de l'histoire, dans une configuration hyper parlementaire. Et dans cette configuration hyper-parlementaire, les partis d'opposition auront un droit de contrôle beaucoup plus important. Dès à présent, comme a dit Jean, la Turquie a commencé à prendre des dispositions beaucoup plus prudentes sur la gestion de ses frontières, le soutien logistique aux organisations djihadistes de Syrie, parce que y compris les policiers, les juges, les services secrets craignent désormais qu'on leur demande des comptes, puisque le gouvernement ne peut plus contrôler les enquêtes parlementaires. Et deuxièmement, dans le système parlementaire, dans ce système-là, je pense la tendance, peut-être on peut trouver ça un peu frileux, mais la tendance serait à revenir à l'ancienne stratégie diplomatie turque, très prudente. On ne s'immisce pas dans les affaires extérieures des autres pays, on essaie de garder la sécurité des frontières et on s'occupe d'abord de nos propres affaires. Mmh. C'est plutôt la tendance-là qui va dominer, ce qui va amener bien entendu une plus grande prudence dans toutes les coalitions possibles et imaginables en Turquie, une beaucoup plus grande prudence. Je pense que il sera quasiment impossible de continuer pour la Turquie de s'engager dans l'axe sunnite massivement à côté de l'Arabie Saoudite et Qatar dans le conflit de Proche-Orient par rapport à l'axe qu'ils appellent chiite, puisque AKP s'est un peu trop engagé dans cette direction. Et puis, bien évidemment, la crainte, que je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire les gouvernements à venir, la crainte d'une importation des actions terroristes de la Syrie vers la Turquie en cas d'une mécontentement plus forte des organisations djihadistes qui ont des cellules dormantes en Turquie. Tout ceci font que la Turquie sera de plus en plus tournée vers ses problèmes intérieurs et abandonner cette illusion que Erdogan avait à un moment donné, au moment fort des révolutions arabes, de devenir le centre de gravité du monde arabo-musulman, de devenir le modèle islamo-démocratique pour les pays. D'ailleurs, dans cette configuration, je pense que les pays occidentaux ont aussi leur responsabilité. Ils ont un peu trop poussé la Turquie à jouer ce rôle-là.
Donc davantage de réalisme, c'est cela que j'entends, Ahmet İnsel.
Je pense, davantage de réalisme. La Turquie est un pays qui a beaucoup de dissensions internes, il faut d'abord résoudre, sans résoudre le problème kurde par exemple, comment vous pouvez devenir un acteur dans le Proche-Orient? Maintenant, les Kurdes en Syrie et en Irak sont des acteurs majeurs. La grande majorité des Kurdes du monde sont en Turquie, habitent en Turquie. Et si vous ne réglez pas votre problème kurde, comment vous pouvez devenir acteur désormais dans le Proche-Orient ou au sud sur tout le long de la frontière irakienne et maintenant sur la frontière syrienne, ce sont des entités kurdes qui sont dans des situations dominantes politiquement. Donc, il faut d'abord résoudre le problème à l'intérieur et je pense que la Turquie sera amenée à être beaucoup plus dans une politique prudente et peut-être aussi, par ce biais-là, réouvrir un peu plus la coopération avec l'Union européenne.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de Chypre, Jean-Marcou. La question de Chypre avec l'élection en avril dernier de Mustapha Akinci, je suis sûre que je ne prononce pas correctement.
Akinci,
qui est un modéré de centre-gauche, donc à la présidence de la partie turque non reconnue du nord de Chypre. Est-ce que cela va faire avancer les choses dans le sens d'une réunification et comment Ankara voit cette évolution précisément, Jean-Marcou?
Il y a eu effectivement cette élection d'un nouveau président qui d'ailleurs a eu immédiatement des dissensions avec Recep Tayyip Erdogan. Plus généralement, à propos de la situation de Chypre, je serais quand même extrêmement prudent parce qu'on a été habitué au cours des dernières décennies à des hauts et des bas et c'est une configuration qui est tellement complexe et tellement difficile qu'il faut rester prudent. Mais il y a quand même un enjeu sur Chypre et sur la Méditerranée orientale, qui est non seulement un enjeu politique, mais qui est également un enjeu énergétique, puisque, vous le savez, ce qui actuellement gêne aussi le règlement de la question chypriote, c'est le problème du devenir des réserves gazières chypriotes. Mais il n'y a pas que ces réserves gazières. Il y a également la découverte du grand gisement de gaz Léviathan par Israël qui va faire d'Israël un pays exportateur de gaz dans les prochaines années. Et autour de ce problème d'exportation de gaz et de hub gazier, la Turquie ayant cette ambition, vous savez, de devenir un hub gazier, un hub pétrolier, on voit quand même que les effets de la politique imprudente de l'AKP ces dernières années, en particulier de Recep Tayyip Erdogan, parce qu'on a vu se constituer vis-à-vis de la Turquie une sorte d'arc de coopération à la fois politique et énergétique, rassemblant l'Égypte, la Grèce, Chypre et même Israël, avec plusieurs sommets tripartites au Caire, qui manifestement étaient des sommets qui visaient à faire un petit peu bloc contre la Turquie. Donc il y a de très gros enjeux, non seulement politiques à Chypre, mais des enjeux énergétiques qui rejoignent cette ambition de la Turquie de devenir un hub gazier pétrolier et qui ne concerne d'ailleurs pas simplement que Chypre, mais également les relations entre la Turquie et la Russie, puisque vous savez que la Turquie et la Russie sont en train de passer un accord pour créer un Turkish Stream qui pourrait d'ailleurs se prolonger par un Greece Stream à l'heure actuelle. Donc il y a de très forts enjeux sur le plan énergétique et du point de vue politique, eu égard au conflit qu'on a déjà signalé, non seulement un conflit en Méditerranée orientale, mais cet isolement dont on parlait tout à l'heure, cette politique un peu de coup de gueule de Recep Tayyip Erdogan, c'est vrai que la Turquie n'aborde pas ces enjeux dans les meilleures conditions et que là, il va falloir effectivement reprendre en main la politique étrangère et le positionnement régional de la Turquie.
Ahmet İnsel, reprendre en main la politique étrangère de la Turquie?
Oui, tout à fait. La question chypriote, si ça se résout, va enlever pas mal de blocages sur la question européenne. Je suis tout à fait d'accord avec la prudence de Jean-Marcou. On a beaucoup eu des espoirs dans le passé, le plan Annan, etc. Mais aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité nouvelle, c'est que la Turquie et la Grèce sont totalement pris par leurs problèmes intérieurs. Et donc, mes amis chypriotes turcs et chypriotes grecs, ils me disent « Ah, enfin, on va pouvoir régler nos problèmes entre nous sans que les grands frères s'en occupent. » Peut-être c'est une opportunité, justement, que grâce aussi cette carotte énergétique, que les chypriotes grecs et les chypriotes turcs puissent trouver leur entente sans que les autres puissances régionales interfèrent. Mais en tout cas, je peux dire que avec les élections présidentielles de août 2014 et surtout avec les élections de 7 juin, la période du parti dominant AKP avec son chef Erdogan est terminée. Ça a duré 13 ans, c'est long. La Turquie a beaucoup changé et peut-être de ce changement sortira une autre Turquie. J'espère pas la nouvelle Turquie telle qu'elle est envisagée par Tayyip Erdogan.
Une une nouvelle page, donc, dont nous aurons l'occasion de reparler. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à Jean-Marc Cou, spécialiste de la Turquie, directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble et auteur du blog ovipot.hypothèse.org, et à Metin Sel, politologue et enseignant d'économie à l'université Galatasaray, auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan, paru aux éditions La Découverte. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à un produit vital pour la sécurité mondiale et donc éminemment géopolitique, le blé et ses enjeux stratégiques.